Maintenant, je vais présenter notre conférencière de ce soir, Madame Anne Cheng. Anne Cheng est née le 11 juillet 1955 à Paris. Elle est historienne des idées. Elle est professeure à l'Institut national des langues et des civilisations orientales, l'INALCO. Elle est ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée docteur en chinois. Pour ce qui est de son parcours, elle a d'abord commencé en entrant au CNRS à partir de 1982. Et depuis 1982, elle enseigne à l'INALCO, donc depuis plus de 20 ans maintenant. Elle est également, depuis 1999, chargée de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales, l'EHESS. Elle est spécialiste de l'histoire intellectuelle de la Chine. Elle a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Et elle est également l'auteur de plusieurs livres, dont Entretien de Confucius, paru aux éditions du Seuil en 1981, Études sur le confucianisme, Han, l'élaboration d'une tradition exégétique sur les classiques, paru aux éditions du Collège de France et de l'Institut des hautes études chinoises en 1985. Elle est l'auteur également de Histoire de la pensée chinoise, qui est paru d'abord aux éditions du Seuil en 1997 et qui est paru en 2002 dans la collection Point Seuil. Et cet ouvrage a reçu deux prix, le prix Stanislas Julien de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et le prix Dagnan Bouveret de l'Académie des sciences morales et politiques en 1998. Anne Cheng, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat d'une vingtaine de minutes avec le public. Je vous remercie.
Je voudrais d'abord commencer par remercier les organisateurs de l'Université de tous les savoirs d'avoir pris de nouveau le risque de m'inviter à intervenir après la conférence que j'avais faite donc en l'an 2000. Je voudrais aussi vous remercier tous, autant que vous êtes, de vous être déplacés ce soir et en profiter pour vous présenter tous mes voeux pour non seulement l'année 2003, mais l'année chinoise du mouton qui va commencer bientôt et qui se trouve être mon année. C'est-à-dire, je suis née sous le signe de la chèvre. Je voulais préciser d'emblée que ma présentation de ce soir est un chantier en cours, puisque le titre de mon exposé est l'intitulé même d'un séminaire conjoint INALCO-EHESS que je contribue à animer et qui a été nourri par des échanges d'idées parfois très animés avec mes collègues de l'EHESS, au premier rang desquels je nommerai Joël Toraval et Yves Chevrier, que vous avez entendu au cours de cette série de conférences et qui se reconnaîtront aisément dans mes propos. Je voudrais aussi saluer au passage les collègues appartenant à d'autres institutions qui ont également participé très activement à ce séminaire et dont je cite largement les travaux. Ce sont donc principalement des hypothèses de travail qui vous seront présentées ce soir. Une autre chose à préciser d'emblée, tous mes collègues sinologues le savent, je ne suis en rien une moderniste, n'ayant eu jusqu'ici pour principale activité que de lire et relire avec mes étudiants de vieux grimoires de la Chine ancienne et impériale. Donc je ne doute pas que d'aucuns parmi mes collègues historiens et modernistes seront hérissés par mes hypothèses, qu'ils jugeront terriblement hâtives ou simplificatrices, voire totalement infondées, et je les remercie d'avance de bien vouloir m'éclairer. Outre la conviction profonde que la Chine dite moderne n'est pas dissociable de son histoire, ma seule motivation pour m'aventurer sur ce terrain mal assuré est le questionnement qui a surgi lors de la rédaction d'une histoire de la pensée chinoise qui donc a été publiée il y a quelque temps. Alors qu'il s'agissait très simplement au départ de diffuser auprès du grand public le contenu d'une expérience d'enseignement sur la tradition textuelle chinoise, c'est-à-dire de remédier aux lacunes considérables, il faut bien le dire, de la culture générale de l'honnête homme contemporain concernant une culture non européenne, j'en suis rapidement arrivée à me questionner sur ce que j'étais en train de faire au juste. N'étais-je pas en train de proposer le récit d'une tradition inventée dans le sillage de toutes les histoires de la pensée ou de la philosophie chinoise qui ont émaillé le XXe siècle en Chine mais aussi en Occident? Inutile de se leurrer, la réponse était clairement oui. Il fallait donc réagir, et pour moi c'était d'autant plus important et urgent que je ne pouvais reprocher à d'autres de vendre de la Chine exotique, esthétique et préemballée, si j'avais pleinement conscience d'aller, fût-ce un tant soit peu, dans le même sens. C'est donc imposé très vite la nécessité de retracer dans une perspective critique la généalogie de cette tradition d'invention de la tradition, qui a fait l'objet donc du séminaire que j'ai mentionné tout à l'heure, ainsi que de mon propos de ce soir. Il s'agira donc pour moi de décrire la façon dont la Chine a réagi et a essayé diverses réponses à l'appel de la modernité, qu'elle a commencé par subir, beaucoup plus qu'elle ne l'a choisi, et qui s'est présentée, voire imposée à elle, comme un défi à relever impérativement sous peine de ne pas pouvoir assurer sa survie. La démarche que je vous propose est essentiellement historique, ne serait-ce que pour réaffirmer que je n'ai pas la moindre intention ou prétention de passer pour philosophe, malgré l'étiquette qui m'est parfois malencontreusement collée. Nous allons, je pense, devoir procéder non pas tant en suivant strictement un ordre chronologique, mais plutôt en cadrant, au sens photographique ou cinématographique du terme, par plans de plus en plus serrés. Alors, si nous commençons en plan très large, il nous faut cadrer à l'échelle d'un siècle, grosso modo, entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe. C'est le siècle que certains historiens ont appelé le siècle des révolutions. En effet, entre les guerres de l'opium des années 1860 et la révolution dite culturelle des années 1960, l'histoire de la Chine moderne est en effet jalonnée d'événements traumatisants, dont je rappelle surtout ceux qui importent pour mon propos. Nous avons notamment 1895, qui est la défaite cuisante des troupes impériales chinoises face au Japon. 1898, ce qu'on a appelé les 100 jours, au cours desquels fut tentée la première réforme des institutions impériales, tentative qui s'est soldée par un échec retentissant. 1911, l'effondrement définitif de la dynastie Manchu et avec elle du régime impérial, donc qui aura duré 2 millénaires. Effondrement donc suivi de l'instauration de la République en 1912. Puis 1917, avec le fameux mouvement iconoclaste du 4 mai, et bien sûr 1949, instauration de la République populaire de Chine, après plus d'une décennie de guerre, c'est-à-dire donc le conflit sino-japonais et la guerre civile entre nationalistes et communistes. Ça, c'était donc pour vous donner en fait quelques repères de dates. Ce siècle des révolutions, nous pourrions tout aussi bien l'appeler le siècle des tentatives de modernité. Comme le montre un nombre croissant de travaux d'historiens, la modernité fait irruption dans une perspective longue. Et toute la question est de savoir si les multiples réactions à ce phénomène seront de rupture ou de continuité, ou des deux, et dans quelle proportion. Dans ce balayage en plan large de l'histoire de la quête de modernité intellectuelle que je vous propose, il faudra garder à l'esprit un faisceau de facteurs qui passe, entre autres, par l'influence des idées occidentales, mais aussi les efforts pour mobiliser les ressources traditionnelles, la mutation du lettré traditionnel en intellectuel moderne, sans oublier le rôle de la médiation japonaise. Nous serons en effet amenés à insister sur le rôle complexe joué par le Japon dans la compulsion chinoise à s'inventer une tradition pendant le siècle qui nous concerne. Donc le Japon qui apparaît à la fois comme modèle et comme repoussoir, qui est perçu tantôt comme une puissance colonisatrice à l'instar de l'Occident et tantôt comme allié contre lui. Donc la question du colonialisme occidental apparaît ainsi compliquée par les prétentions du Japon moderne dans la zone Asie-Pacifique, outre les rapports culturels déjà complexes qu'il entretient avec la Chine depuis plus d'un millénaire. Alors, ce qui change, notamment avec les guerres de l'opium et l'ouverture des ports, c'est l'intrusion en force d'un Occident indéniablement plus puissant et plus riche que la Chine impériale, qui l'a contraint à reconnaître non seulement l'existence, mais la supériorité d'un autre qu'elle, et qui n'est pas réductible au statut traditionnel de barbare de la périphérie. À partir du milieu du XIXe siècle, la Chine se trouve acculée dans une logique de survie. De fait, l'une des premières réactions aux guerres de l'ouverture est ce qu'on a appelé le mouvement d'auto-renforcement, Ziqiang, donc des années 1860-1880, appelé aussi mouvement des activités à l'occidental, le Yang Wu Yundong, qui se traduit par une certaine ouverture d'une partie des élites lettrées au contact de l'étranger, notamment dans les régions côtières, autour des grands centres urbains comme Tianjin, Shanghai et Canton. Il faut souligner à ce propos le rôle particulier joué par l'arsenal du Jiangnan, fondé en 1865 à Shanghai pour devenir l'un des principaux bastions des activités à l'occidental, qui, parallèlement à la construction de canons et de navires de guerre, commandita nombre de traductions d'ouvrages occidentaux, parmi lesquels celles de Spencer et de Huxley par Yan Fu. Traductions qui contribuèrent de manière décisive à diffuser les notions de base du darwinisme social, à savoir évolution, histoire linéaire, notion du progrès, lutte pour la survie des individus et des nations, et j'en passe. Donc, intellectuellement, le dernier espoir pour la culture chinoise de digérer, comme elle l'avait toujours fait, l'apport extérieur, qui cette fois n'était pas choisi ou toléré, mais subi comme une agression, a résidé dans le recours à une formule lancée d'abord par Feng Guifen et reprise ensuite par Zhang Zhidong, et que je vous donne dans sa formule, dans sa formule resserrée en chinois, à savoir Zhong Ti Xi Yong, c'est-à-dire Zhong, la Chine ou le savoir chinois, comme Ti, comme constitution, comme constitutif, et le Xi, c'est-à-dire l'Occident ou le savoir occidental, comme Yong, c'est-à-dire comme fonctionnel. Formule qui revient à préconiser de préserver les valeurs culturelles chinoises tout en s'appropriant les moyens de la puissance matérielle de l'Occident. Une telle formule permet de préserver pour un temps, au moins, l'illusion de pouvoir maintenir l'universalisme traditionnel de la Chine impériale en niant toute valeur culturelle à l'Occident. Cette idée, de toute évidence devenue utopique, que la Chine peut encore s'assimiler la puissance occidentale, implique des amalgames qui tendent à établir des gradations purement quantitatives plutôt que des différenciations qualitatives. Elle implique une réécriture ou une invention de l'histoire qui présente par exemple un penseur confucéen de l'Antiquité chinoise du 3e siècle avant Jésus-Christ comme Xunzi, présenté comme précurseur de Spencer, ou Laozi comme annonciateur de Darwin. En somme, une recherche en antécédents. Alors, c'est ainsi que à Mencius, donc Mengzi, également penseur de l'Antiquité du 4e siècle avant notre ère, donc à Mencius sont censés remonter rien moins que les germes de la démocratie, les germes du christianisme et aussi, pourquoi pas, les germes de la science occidentale. Je signale au passage d'ailleurs que cette façon de faire remonter à Mengzi notamment les germes de la démocratie est encore d'une certaine manière instrumentalisée actuellement dans les propos de ceux qui défendent la thèse de l'existence de germes des droits de l'homme, donc dans la culture chinoise. Alors, outre la reprise de la distinction chinoise classique entre Ti, donc le corps ou la constitution, et le Yong, c'est-à-dire l'application ou la fonction, On peut sans doute voir dans cette formule, Jonti Shion, un rappel des formules japonaises qui, dès le IXe siècle de l'ère chrétienne, tentent de ménager au Japon une existence face à la Chine. Esprit japonais, pratique chinoise, wakan kansai, disait-on au Japon. Au XIXe siècle, Sakuma Shōzan, l'un des pionniers de l'occidentalisation, propose une formule assez proche de celle de Feng Guifeng, qui donne en japonais donc Toyo no Dotoku, Seiyo no Gakugei, c'est-à-dire donc les valeurs morales et spirituelles de l'Orient avec les compétences techniques de l'Occident. Comme le note Jean-Marie Buissou, l'essence nationale japonaise se constitue par rapport à un autre imaginé, à la fois modèle à suivre et danger à écarter. Ce rôle a longtemps été rempli par la Chine avant que l'Occident ne la remplace à la fin du XIXe siècle. Le discours sur l'autre imaginé passe donc de l'expression « wakon kansai », esprit japonais pratique chinoise, à « wakon yusai », c'est-à-dire donc esprit japonais pratique occidentale. À travers cette formule, le grand intellectuel de l'ère Meiji, Fukuzawa Yukichi, pousse dans le sens de la modernité occidentale en refoulant la Chine, qui est du coup considérée comme barbare. C'est d'ailleurs à cette époque que l'appellation de la Chine, Chugoku, qui est la transcription donc de Zhongguo, c'est-à-dire le pays du milieu, devient China, justement pour en contester la centralité et opérer un déplacement sur la notion d'Orient, le Toyo, donc japonais, dont le Japon deviendrait le centre implicite. De fait, la dernière tentative de synthèse inclusive opérée au nom de l'universalisme chinois et encapsulée dans cette fameuse formule Zhongti Xion ne tient pas longtemps face à la tension qui s'accroît dans les toutes dernières années du XIXe siècle, surtout à la suite de la défaite traumatisante de 1895 aux mains du Japon. Tandis que les idées occidentales, jusque-là confinées au monde ouvert du littoral, gagnent du terrain dans l'intérieur et dans les rangs de la bureaucratie, à travers la multiplication notamment des journaux et des sociétés d'études, le grand lettré réformiste Kang Youwei, je vous donne quand même ces dates, 1858-1927, achève le travail de sape en minant la tradition de l'intérieur, mais bien involontairement, comme on va le voir. En 1898, Kang Youwei, avec d'autres lettrés, entreprend pour la première fois de toute l'histoire impériale de lancer une réforme des institutions en jetant les bases d'une monarchie constitutionnelle sur le modèle du Japon de l'ère Meiji. L'ambition de Kang est de faire du confucianisme une religion d'État, en imitation de l'essence nationale japonaise, dans un cadre institutionnel rénové à l'occidental, mais en même temps, en bon lettré traditionnel, Kang croit pouvoir mobiliser les ressources canoniques confucéennes pour accomplir la réforme politique dans une visée utopiste, caractéristique de l'idéal de la grande unité du ritualisme antique. Là, je suis obligée d'être un petit peu sommaire et allusive parce que ce serait un peu long et compliqué de vous expliquer en fait en quoi consiste cette mobilisation des ressources canoniques. J'explique ça dans un article paru dans la revue Études chinoises il y a quelques années. Mais disons qu'il y a ici en fait ce paradoxe de quelqu'un qui tente justement la première réforme institutionnelle dans l'histoire de l'Empire chinois, en se fondant justement sur des sources canoniques traditionnelles. Mais cette dernière tentative culturaliste d'effectuer le changement par le haut échoue avec perte et fracas. Et du coup, le mouvement politique d'opposition se radicalise après cet échec des 100 jours, considéré comme l'une des sources de la révolution anti-manchoue de 1911. Et en conséquence, le principal disciple de Kang Youwei, Liang Qichao, dont nous allons reparler un peu plus loin, condamné à l'exil au Japon, prend le parti il le dit lui-même, de ne plus parler des classiques, et déplace le cadre de la survie et de l'adaptation en faisant la théorie moderne de l'État indépendamment des valeurs culturelles. Je cite ici un article de d'Yves Chevrier. Du coup, on passe de l'universalisme le plus englobant, c'est-à-dire celui de la puissance irradiante de la civilisation chinoise, celui de la conception chinoise de tout ce qu'il y a sous le ciel, du tianxia. On passe de ça, donc, au nationalisme le plus vindicatif. Après le fiasco donc, de cette tentative de réforme institutionnelle de 1898, et avant même la chute définitive du régime impérial en 1911, s'affirme, dès 1901, une volonté de réforme de l'éducation qui trouve son achèvement en 1905 dans l'abolition définitive du système séculaire de recrutement des serviteurs de l'État par les fameux examens mandarinaux. Depuis l'appel lancé en 1898 par Zhang Zhidong, qui, je vous le rappelle, est celui qui a repris donc, cette formule, Zhong Tixiong. Donc cet appel, il le lance dans un fameux texte qui s'appelle « L'exhortation à l'étude ». Depuis donc cet appel, on assiste à un bond à la fois quantitatif et qualitatif dans le mode de scolarisation. Pour vous donner juste un chiffre, vers 1890, nous avons encore moins de 20 000 élèves dans les écoles occidentalisées, qui sont en fait des écoles ouvertes par les missionnaires pour la plupart. Alors qu'en 1911, c'est-à-dire lors de la chute de l'Empire, ce sont près de 3 millions de jeunes Chinois qui sont scolarisés dans toutes sortes d'établissements d'un nouveau type, écoles, collèges, écoles normales, écoles techniques, écoles militaires. Des universités comme celle de Pékin sont créées sur le modèle occidental et toujours à partir de 1901, des étudiants sont envoyés massivement à l'étranger, en tout premier lieu au Japon, qui est en fait le pays le plus proche non seulement du point de vue de la géographie, mais aussi et surtout du point de vue de l'écriture et de la culture. Donc, entre 1896 et 1911, on peut dire que près d'un millier d'ouvrages concernant ce qu'on appelait alors le nouveau savoir occidental sont traduits du japonais en chinois. Alors, vous avez dans le tas des encyclopédies, des manuels scolaires et j'en passe. Donc, on peut dire que la référence n'est pas frontalement et directement l'Occident, mais le Japon, qui lui l'a déjà prédigéré, si j'ose dire, sans trop de dommages apparemment, et de manière immédiatement assimilable par la culture chinoise. Donc, dans ce qu'on peut appeler un véritable transfert culturel, le Japon fournit à la Chine, clé en main, si j'ose dire, non seulement l'agenda, alors l'agenda au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le programme des choses à faire, l'agenda, mais aussi l'outillage conceptuel et terminologique de la modernité. Il est bien connu, d'ailleurs, que le Japon a servi de relais non seulement pour les idéologies radicales nouvelles, comme l'anarchisme ou le socialisme, mais aussi pour les idéologies conservatrices, comme ce fut le cas pour Liang Qichao, donc le disciple de Kang Youwei que j'ai mentionné tout à l'heure. À cette effervescence culturelle, qui se passe somme toute sans trop de heurts, on peut dire sans trop d'exagération qu'en 1905, les examens civils sont abolis davantage en vertu d'une force d'inertie que d'une volonté farouche de rupture. Donc à cette, disons, à cette modération culturelle vient s'opposer une radicalisation politique qui passe d'abord par l'échec de la première expérience républicaine en 1912, et qui connaît un paroxysme dans le fameux mouvement du 4 mai 1919, qui, comme vous le savez peut-être, a été initialement déclenché par les étudiants de Pékin, déjà, à l'annonce de l'octroi au Japon des anciennes possessions allemandes en Chine. Donc vous voyez que le rapport avec le Japon est quand même très, très complexe. Alors, ce mouvement, qui marque le début d'une période de forte agitation politique, se réclame d'une modernité définie en termes résolument occidentaux, de science au singulier et de démocratie, lesquels font l'objet d'une idolâtrie qui n'a d'égal que la violence dirigée contre la tradition, identifiée en bloc comme confucéenne. L'un des slogans qu'on a le plus entendu lors de ce mouvement, c'est « Abat la boutique de Confucius », Tao Tao Kong Diatien. Bon. Et ce slogan est une sorte de porte-drapeau pour ceux qui, comme le grand écrivain Lu Xun, tiennent le confucianisme pour responsable de tous les maux dont souffre la Chine, de son arriération à la fois matérielle et morale. Donc, de toute évidence, le 4 mai représente un moment de rupture, sinon le plus important, du moins le plus symbolique. Selon nombre d'historiens, c'est là que s'enracinent les origines intellectuelles de la Révolution chinoise. Or, c'est dans la tension entre une certaine continuité, ou du moins volonté utopique de continuité culturelle, et la construction pour le moins saccadée du politique au cours du XXe siècle chinois, que se joue la mutation du lettré traditionnel en intellectuel au sens occidental moderne, qui a été si bien décrite par Yves Chevrier dans un remarquable article de 1983. Mais cette partition entre, d'une part, les héritiers du culturalisme et, d'autre part, une nouvelle intelligentsia d'avant-garde fortement politisée, entre le lettré confucéen conseiller du prince et l'intellectuel contestataire du 4 mai, n'est pas, à mon sens, à comprendre en termes de partition entre anti-modernistes et modernistes, comme a pu le faire le sinologue américain Joseph Levinson, dont les thèses ont été très influentes, qui considère que, après le fiasco de 1898, la référence à la tradition ne pouvait être que résiduelle, de l'ordre de ce qu'il appelle l'attachement sentimental, le emotional commitment, et qui interprète donc les réactions culturalistes et traditionnalistes à l'occidentalisation et à l'occidentalisme comme une rigidification faisant pendant à celle de la modernité. Donc, pour Levinson, en fait, il y a en fait une répartition qui se fait de cette manière et qui me semble peut-être un peu trop propre pour être vraie. À mon sens, au regard de la modernité intellectuelle, la partition ne se fait pas tellement entre traditionnalistes néo-confucéens d'un côté et modernistes partisans du tout occidental de l'autre. Pour moi, la revendication de modernité est partout aussi forte et paradoxalement peut-être même plus forte du côté de l'invention de la tradition. Alors, il me semble intéressant à cet égard d'évoquer au moins rapidement le cas de ce que je peux appeler les deux Liang, à savoir Liang Qichao, dont j'ai parlé déjà à plusieurs reprises, et l'autre Liang, à savoir Liang Shuming, dont les dates sont 1893-1988. Alors, je sais que pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas du tout le chinois, tous ces noms chinois sont un peu difficiles à distinguer, surtout quand ils portent le même nom de famille. Mais je vais essayer quand même de rendre la distinction à peu près nette. Alors, le parcours de Liang Qichao, déjà évoqué précédemment, pourrait être schématisé de la façon suivante, c'est-à-dire que dans une première phase, il y a la dette envers son maître Kang Youwei, qui lui était un lettré ancien modèle, qui a poussé le savoir canonique traditionnel jusqu'à ses ultimes limites, c'est-à-dire jusqu'à les faire imploser. Ensuite, dans le parcours de Liang Qichao, il y a eu l'exil au Japon et l'expérience de l'acculturation japonaise avec pour résultat le libéralisme conservateur, autoritaire, communautaire et moralisant qu'il professe après 1903, notamment dans son ouvrage le Ximin Shuo, c'est-à-dire donc le discours sur le nouveau citoyen. Souvent présenté comme le prototype du nouvel intellectuel chinois, Les Anqichao rattachent pourtant, je reprends ici les termes d'Yves Chevrier, rattachent pourtant l'intellectuel moderne au modèle confucéen bien plus qu'au modèle occidental. Il y avait un peu de l'intellectuel chez le lettré, mais beaucoup du lettré survit dans l'intellectuel nouveau citoyen. Quant au parcours de l'autre Liang, donc de Liang Shuming, il offre une version du traditionnalisme quelque peu différente. Son père, Liang Ji, se donne la mort en novembre 1918, donc nous sommes quelques mois avant le mouvement du 4 mai 1919, pour protester contre la destruction des principes ancestraux, geste d'autant plus significatif qu'il émane d'un lettré fonctionnaire, pourtant ouvert aux choses nouvelles, hein, et dont on peut dire qu'il a été à la fois nationaliste et fidèle aux traditions du devoir officiel et de la responsabilité morale envers l'État et la société. Alors, l'ironie de l'histoire, dans la biographie de Liang Shuming, c'est que son père, Liang Ji, donc en voulant épargner à son fils l'aspect fastidieux de l'apprentissage traditionnel des classiques, a fait que Liang Shuming, donc son fils, qui n'a que 12 ans lors de l'abolition des examens civils en 1905, est amené à s'initier par lui-même à la lecture des classiques à l'âge adulte, et donc en fait à inventer une sorte de mode de lecture des classiques. Ainsi, celui que l'on présente comme le tenant d'une conception conservatrice voire réactionnaire de la société rurale et du conservatisme confucéen à l'époque du 4 mai n'est déjà plus, une génération après Kang Youwei, un lettré traditionnel, c'est-à-dire formé aux classiques en milieu familial dès l'enfance et destiné à servir dans la bureaucratie impériale, mais un intellectuel qui, cependant, ne peut éviter d'utiliser le langage moderne pour récuser la modernité au nom d'une tradition qu'il invente. Donc là, vous voyez un petit peu comment tout ça s'imbrique. Alors, je vous renvoie à ce propos à la traduction en français, revue et préfacée par mon maître Léon Vandermeersch, que je sais présent ici, et qui s'est exprimé ici même l'autre soir. Donc la traduction de l'ouvrage de Liang Shuming, « Les cultures d'Orient et d'Occident et leur philosophie », paru au PUF en l'an 2000. Alors, comme nous allons le voir, Liang Qichao et Liang Shuming jouent tous les deux un rôle fondateur dans l'introduction de la philosophie en Chine, qui va m'intéresser maintenant, et qui se joue dans les quelques années, on pourrait dire, entre 1902 et 1906, sur lesquelles nous allons maintenant resserrer le cadrage, hein, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Alors, je m'appuierai pour ce faire sur le contenu de plusieurs interventions dans notre séminaire de Michel Masson, qui est actuellement directeur de l'Institut Ricci. Alors, pour traduire le concept occidental de philosophie, le mot tetsugaku est inventé en japonais, d'abord, par un certain Nishi Amane, qui joue un rôle important dans la réforme de Meiji et qui assigne sa vocation à la philosophie dans des termes fortement influencés par le positivisme d'Auguste Comte. Il écrit ceci en 1874. « Lorsque nous cherchons à clarifier les lois naturelles et humaines et que nous établissons dans le même temps une doctrine méthodologique au cours de notre quête des lois de la matière et de l'esprit humain, nous appelons de telles activités intellectuelles philosophie, qui se traduit en japonais tetsugaku. » Ce dernier mot se retrouve pour la première fois transposé en chinois, donc zhexue, dans un compte-rendu sur le Japon, publié en 1895 par un certain Huang Zhenxian, où se trouve décrite l'organisation de l'Université impériale de Tokyo, fondée en 1877 dans l'esprit de Meiji, et composé, nous dit Huang Zhenxian, donc de trois grandes facultés, à savoir une faculté de droit, une faculté de physique et une faculté de littérature, dont dépend un dénommé département de philosophie et de politique. Alors, autant dire que la catégorie philosophie s'introduit au Japon sous la forme d'une discipline d'enseignement universitaire c'est-à-dire d'une activité professionnelle nouvelle s'exerçant dans un cadre institutionnel nouveau. Elle atteint ensuite le public chinois à travers des traductions d'ouvrages en japonais qui sont souvent eux-mêmes des traductions ou condensées d'ouvrages occidentaux. Alors, pour vous citer quelques exemples, en 1903, Cai Yuanpei, qui est un personnage important en fait, de la modernité chinoise et qui devait devenir recteur de la prestigieuse université de Pékin. Donc en 1903, Cai Yuanpei publie les grandes lignes de la philosophie qui reprend en traduction chinoise, alors tenez-vous bien, des notes prises en japonais lors de cours dispensés en anglais par un professeur allemand à l'université de Tokyo. Donc, ces cours, semble-t-il, portent sur les concepts fondamentaux, les grands courants, méthodologies et systèmes, au premier rang desquels ceux de Kant et de Hegel, de la philosophie occidentale. En 1906, le même Cai Yuanpei traduit les conférences sur la démonologie, vous allez me dire le rapport avec la philosophie, ça vient tout de suite, les conférences sur la démonologie, publié en 1895 par le japonais Inoue Enryo, qui se trouve être le premier diplômé en 1885 du département de philosophie, donc de l'université impériale de Tokyo. Il faut préciser entre parenthèses qu'il il est vrai qu'il en était à l'époque l'unique étudiant. Qui fut également, ce Enryo, qui fut également fondateur 2 ans plus tard de l'Institut de philosophie, qui devait en fait jeter les bases de la future université Toyo. Alors, la pensée de ce monsieur Enryo, exposée dans près de 120 ouvrages, consiste à réinterpréter le bouddhisme dont il est adepte. En fait, il est originaire d'une famille adepte de la secte bouddhique de la Terre pure, du Jodo. Réinterpréter le bouddhisme à la lumière de la philosophie occidentale et de tenter une synthèse des pensées, là aussi tenez-vous bien, du Bouddha, de Confucius, de Socrate et de Kant. Alors, par-delà ce syncrétisme quelque peu échevelé, nous verrons que Kant représente un point majeur de focalisation dans le processus d'appropriation de la philosophie occidentale au Japon puis en Chine. Alors, parallèlement aux traductions du japonais en chinois, la philosophie fait son apparition en Chine par le truchement d'articles de journaux, notamment ceux que Liang Qichao, toujours lui, donc en exil au Japon, consacre dans son journal Le Nouveau Citoyen, le Shimin Congbao, qu'il édite de Tokyo Yokohama entre 1902 et 1907, et qu'il donc, il consacre dans ce journal certains articles, notamment à la philosophie présocratique, Parménide, Héraclite, etc., ou à la pensée de Kant, qu'il qualifie de quasi-bouddhiste, lui aussi. Je peux notamment faire référence à un article daté de 1903, de Liang Qichao, donc, est intitulé « La pensée de Kant, le plus grand philosophe moderne », et qui est en fait le résumé d'un chapitre que l'auteur japonais Nakae Chōmin consacre à Kant dans un ouvrage de 1886 et qui est lui-même la traduction d'un chapitre d'une histoire de la philosophie publiée en 1875 par Alfred Fouillet, maître de conférence à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, de son état. Donc là, vous voyez aussi que nous sommes toujours dans ce processus très compliqué donc, de la médiation japonaise. Alors, non content d'introduire le concept occidental de philosophie, le Japon invente aussi la philosophie chinoise. Dès 1903, la section des études chinoises, le Kangaku, donc de l'université, est subdivisé en une sous-section donc, de philosophie chinoise et une autre sous-section de littérature chinoise. Et en 1910, paraît la première histoire de la philosophie chinoise, le Shina Tetsugakushi, Donc en japonais, par Takase Takejiro. Je vous fais remarquer juste au passage que ici est employée donc la désignation Shina et non pas Chugoku, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Et il faudra attendre 1916 pour que paraisse à Shanghai la première histoire de la philosophie chinoise en chinois, donc un Zhongguo Zheshue Shi, par un certain Xie Wuliang, suivi de près en 1918 par le premier volume du précis d'histoire de la philosophie chinoise, Zhongguo Zheshue Shi Dagang de Hu Shi. Donc, également paru à Shanghai, ce volume, je crois que mon ami et collègue Chu Xiaotuan a dû vous entretenir ici même hier soir de l'importance de Shanghai dans la modernité chinoise. Alors, je pense qu'évidemment, il est en ça un petit peu partial dans la mesure où il est shanghaïen lui-même. Mais là, force est de constater que Shanghai, effectivement, est vraiment à la pointe de la modernité intellectuelle. Donc, ce volume de Hu Shi, consacré aux penseurs de l'Antiquité chinoise et préfacé toujours par le même Cai Yunpei, fut rédigé en un an, c'est-à-dire vraiment dans l'urgence, par un Hu Shi frais et moulu de l'Université Columbia, donc à New York, et de sa formation auprès du philosophe pragmatiste américain John Dewey. Donc, alors que Hu Shi s'efforce de répondre à la caractérisation logique de la philosophie occidentale. Il publie d'ailleurs en 1922 sa thèse doctorale sous le titre anglais de The Development of the Logical Method in Ancient China, hein, donc le développement de la méthode logique en Chine ancienne. Donc Hu Shi, lui, s'attache en fait à caractériser, si vous voulez, la philosophie chinoise comme logique. Feng Yolan, le grand Feng Yolan, donc, qui a vécu de 1895 à 1990, donc presque un siècle, lui aussi formé à Columbia, donne une monumentale histoire de la philosophie chinoise qui fait encore date, le Zhongguo Zheshue Shi, donc paru en deux volumes à Shanghai en 1930 et 1934, où Feng Yolan s'emploie en outre à répondre à la caractérisation systématique de la philosophie occidentale. Pour Feng Yolan, il s'agit en effet, je le cite, de sélectionner et exposer ce qui, parmi les diverses traditions intellectuelles au cours de l'histoire chinoise, pourrait être appelé philosophie au sens occidental de ce mot. Et c'est ainsi que Feng Yolan se propose de dégager une théorie du monde, c'est-à-dire une ontologie, une cosmologie, une théorie de la vie, donc psychologie, éthique, philosophie politique et sociale, et enfin une théorie de la connaissance, c'est-à-dire une épistémologie et une logique. Donc tout ça, Feng Yolan se propose d'essayer de le retrouver donc, dans la tradition intellectuelle chinoise. Et il poursuit dans ces termes, « Il n'y a pas de philosophie qui ne réponde pas aux exigences de la science, qui ne soit pas un discours systématique suivant les règles de la logique. » Chaque philosophie est un tout qui a son unité et qui, en tant que telle, constitue un système. Dans la philosophie chinoise, comme chez Socrate et Platon, les systèmes sont bien là, mais ils n'ont pas été formalisés en tant que tels. Donc là, il y a comme une espèce de gêne, enfin. Bon. Il s'agit bien donc d'identifier les systèmes réels, ça c'est Feng Yolan qui l'appelle comme ça, les systèmes réels qui sont dissimulés sous des langages non systématiques. Donc là, je ne pense pas qu'on puisse être plus clair sur ce projet donc, d'histoire de la philosophie chinoise. Alors, parallèlement au développement en flux continu des histoires de la philosophie chinoise, qui constituent désormais un genre et qui, à partir de 1949, se différencient surtout en fonction des appartenances idéologiques de leurs auteurs, c'est-à-dire soit tendance marxiste, soit en fait l'opposé, un projet d'un autre ordre se fait jour avec quelques intellectuels qui se réclament du renouveau confucéen représenté au début du siècle par Liang Shuming, qui se distinguent par leur opposition au communisme et qui en viendront bientôt à être désignés par le vocable de nouveaux confucéens contemporains, au premier rang desquels figure Mao Zedong, hein, qui lui aussi a vécu près d'un siècle, donc entre 1909 et 1995. Considéré comme l'un des rares penseurs du XXe siècle à pouvoir prétendre à la qualité de philosophe chinois, Mao Zedong a retenu toute l'attention de mon collègue Joël Toraval, qui a fourni une introduction très développée à la traduction par Ivan Kamenarovitch et Jean-Claude Pastor, à paraître sous peu aux éditions du CERF, d'une série de conférences données par Mao Zedong sur ce qu'il considère comme les spécificités de la philosophie chinoise. Initialement formé à l'école du logicisme de Russell, du premier Wittgenstein et de Whitehead, Mao Zedong propose encore une autre façon de répondre ou de résister à la puissance de la philosophie occidentale, qui est, elle, de s'approprier son langage et sa systématicité. D'où ce que Joël Toraval appelle le recours à Kant, dont Mao Zedong s'est héroïquement attaché à traduire en chinois, mais de l'anglais, pas de l'allemand, les trois critiques. C'est à partir de sa lecture de Kant et de son projet de construire une sorte de métaphysique des mœurs confucéennes que Mao Zedong réorganise les grands courants de pensée de la Chine impériale en bousculant, si besoin est, la distribution traditionnelle. Alors que ce sont surtout les intellectuels donc de la nouvelle culture, issus du mouvement du 4 mai 1919, qui ont retenu l'attention des historiens du XXe siècle chinois, et sans doute avec raison, puisqu'ils ont été des acteurs directement engagés dans ce siècle de révolutions successives, ce n'est que tout récemment que l'autre courant, celui qui semblait ne pas aller dans le sens de l'histoire, a commencé à sortir de la pénombre. Je fais référence là, en fait, à ce mouvement qu'on pourrait dire, en fait, néo-confucéen. Si d'aucuns ont pu lui reprocher d'avoir raté la marche de la modernité, il ne lui était pas interdit d'essayer de se raccrocher au train de la post-modernité, à savoir post-occidentaliste, post-colonial, post-tout, enfin revenu de tout, mais quoi qu'il arrive quand même capitaliste. Et c'est donc ce que ce courant a tenté de faire dans les années 1980, sous la forme purement idéologique d'une volonté de renouveau des valeurs confucéennes, largement informée sur le plan intellectuel par des représentants autoproclamés, je dis bien autoproclamés, du néo-confucianisme contemporain et auquel j'ai consacré donc une conférence à l'Université de tous les savoirs au cours de l'an 2000. Donc, rassurez-vous, j'en arrive à ma conclusion. Donc, nous avons essayé, pendant l'heure qui vient de s'écouler, de remettre le phénomène d'invention de la tradition que l'on observe dans les toutes premières années du XXe siècle en Chine dans la perspective longue de ce qui s'y passe à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, au moment où les intellectuels chinois sont contraints de regarder en face la réalité de la suprématie occidentale, pas seulement sur le plan matériel et technologique, mais plus grave encore, sur le plan des représentations et des systèmes de légitimation intellectuelle. C'est à ce moment que d'abord la religion, chrétienne avant tout, ça va sans dire, et la science, puis la philosophie et la démocratie, sont apparus comme des atouts majeurs de la puissance occidentale qu'il s'agissait de s'approprier afin de se réapproprier sa propre image d'universalité. Donc mon propos de ce soir était de tester le degré de continuité et de rupture intellectuelle dans l'énorme mutation du début du XXe siècle en Chine et plus particulièrement de voir si l'invention de la philosophie chinoise était seulement un ultime effort pour sauver les meubles ou bien, au contraire, pour reprendre une expression de Joël Toraval, le geste de la modernité, ou bien encore les deux à la fois. On peut en effet se demander si cette tentative ne revient pas à démolir définitivement le savoir traditionnel au lieu de le préserver, ou bien si elle donne naissance à quelque chose de nouveau, par exemple à une volonté de faire servir philosophiquement une tradition textuelle qui n'est pas en soi reconnue comme philosophique. Certes, ce que nous venons de rappeler des constructions modernes de la tradition semble pointer d'abord vers une réponse essentiellement réactive à ce qui est perçu de la modernité occidentale dès le tournant du XXe siècle. Mais nous avons eu aussi un aperçu de la complexité avec laquelle la modernité s'est construite entre des intellectuels aussi différents que Liang Qichao, qui propose une théorie autoritariste de l'État tout en jouant un rôle déterminant dans l'introduction de la philosophie occidentale en Chine, Liang Shuming, qui est animé par une vision réactionnaire de la société mais qui invente une tradition confucéenne, Feng Yolan, qui écrit l'histoire de la philosophie chinoise en fonction de catégories occidentales mais qui choisira de rester en Chine populaire après 49, tandis que Hu Shi, figure de proue du mouvement du 4 mai et de la modernité littéraire, lui préférera finir sa carrière à Taïwan. Donc, rien n'est simple et tout se complique, là pour citer Sempé. Rien n'est simple et tout se complique encore plus quand on considère que cette tradition inventée largement en fonction de l'agenda occidental est dorénavant appropriée en retour par l'Occident, où une part du grand public, dont vous faites peut-être partie, aspire à quelque chose d'autre que ce qu'ont apporté jusqu'ici les religions essentiellement monothéistes constituées, et où les philosophes, cherchant à sortir de la métaphysique qui a caractérisé la philosophie occidentale pratiquement jusqu'à l'aube du XXe siècle, découvrent avec délice et émerveillement ce qui leur est présenté comme une pensée de l'immanence. Depuis plus d'un demi-siècle, la question de la philosophie chinoise n'est plus seulement l'affaire des intellectuels chinois, on peut même dire qu'au-delà du cercle plus large des intellectuels chinois d'outre-mer, de première ou seconde génération, ça c'est ça qui me concerne plus particulièrement, elle est devenue surtout l'affaire d'intellectuels européens et nord-américains qui pensent trouver dans cette tradition inventée, rappelons-le, une autre façon de faire de la philosophie. Dans le même temps, comme l'a montré Yves Chevrier ici même, la Chine continentale du moins semble aujourd'hui coupée de son passé autant proche que lointain. Alors si un Jean-François Bilter dramatise peut-être à l'excès en estimant que, je le cite, « la Chine rêve de son passé mais elle est devenue un pays sans mémoire », force est de constater que la plupart des universitaires chinois qui peuplent les départements de philosophie de Pékin ou de Shanghai connaissent mieux Heidegger et Derrida que Confucius et Zhu Xi. Alors, il est permis de se demander ce qu'il en est maintenant que la modernité révolutionnaire, c'est-à-dire la modernité de rupture, est tombée aux oubliettes. L'avenir appartiendrait-il à la tradition réinventée qui voudrait se présenter comme une modernité de continuité? Quoi qu'il en soit, pour qu'il soit possible de parler de modernité de la tradition ou de traditionnalisation du moderne, encore faut-il qu'il y ait conscience de l'histoire, c'est-à-dire prise en compte critique du passé. Et c'est ce que j'essaye dans la faiblesse de mes moyens de faire. Alors, ce que j'essaye de constater ici, c'est que nous avons là en vérité un beau chassé-croisé entre le désir occidental d'altérité et le désir chinois d'amnésie qui, de toute façon, rassurons-nous, ne pèse pas pour l'instant très lourd au regard de la course à la puissance bien matérielle, celle-là, dans laquelle la Chine est actuellement engagée et qui fait l'objet de bon nombre de conférences de ce cycle. Et je finirai par une question en forme de pirouette. Est-ce que ce ne serait pas amusant de reprendre la bonne vieille formule « zhong ti xi yong », c'est-à-dire donc la Chine comme essence et l'Occident comme application fonctionnelle, mais en l'inversant, ce qui donnerait « xi ti zhong yong », c'est-à-dire l'essence intellectuelle de l'Occident avec la quête de suprématie matérielle de la Chine. Merci de votre attention.
Est-ce que vos collègues chinois de Shanghai ou de Pékin participent de votre réflexion? Comment les Chinois de Shanghai, les universitaires, accueillent votre proposition?
Là, je dois dire que je n'ai pas encore eu l'occasion de leur soumettre ces propos sous cette forme. Disons que ça dépend beaucoup. En fait, je crois que dans le monde intellectuel chinois, mais encore une fois, je pense que mon collègue Chu Xiaoquan serait plus à même de répondre à cette question, parce que lui est un véritable intellectuel chinois de la vraie Chine. Là, je crois que ça dépend beaucoup, en fait, des rencontres personnelles que l'on fait. Ceci dit, ce que je peux signaler quand même, c'est qu'il y a actuellement une réflexion en cours sur ce qu'on appelle la légitimité du concept de philosophie chinoise qui est mené par certains universitaires de l'Académie des sciences sociales à Pékin. Donc, maintenant, il s'agit de voir, en fait, s'il n'entre pas là quand même un certain souci nationaliste, disons. Mais enfin, disons que tous les universitaires chinois ne sont pas totalement imperméables à ce genre de réflexion, hein, quand même.
Je suis étonné qu'il y a si peu de place actuellement chez les penseurs chinois modernes de la pensée de Lao Tse.
Là, en fait, c'est sans doute ma faute. Je n'ai pas pu être très, très exhaustive. Mais il est certain que dans un souci de comparatisme qui ne trouve pas toujours les justifications théoriques qu'il faudrait, Lao Tse a très souvent été convoqué, notamment pour faire face à Heidegger. Ce qui n'est dans ce cas-là en fait pas totalement injustifié, dans la mesure où on sait que Heidegger a trouvé une source d'inspiration effectivement dans ses textes aphoristiques de l'Antiquité chinoise. Mais disons que c'est quand même en fait quelque chose qui reste présent. Je n'ai pas pu le mentionner. Je m'excuse si j'ai donné l'impression que disons il y a en fait une sorte de marginalisation ou de mise de côté totale en fait de la tradition chinoise chez les intellectuels contemporains. Mais disons que une bonne part de l'intérêt nouveau ou renouvelé qu'ils éprouvent pour leur propre tradition passe souvent par le détour occidental. C'est-à-dire que c'est parce que l'Occident s'y intéresse que beaucoup d'intellectuels reviennent vers les textes de la tradition chinoise.
J'ai été frappé d'apprendre que la révolution intellectuelle Meiji au Japon avait été concomitante des tentatives de 1898 en Chine. Donc, en fait, ma question est purement événementielle. Était-ce bien toujours l'impératrice Tse-i qui était au pouvoir en 1898 ?
Oui. Bon, là, je commencerai en fait par m'abriter derrière le fait que je ne suis pas historienne spécialiste de cette période. Ceci dit, je pense que ce serait peut-être trop simple d'attribuer en fait l'échec des 100 jours de 1898 à la seule, disons, action et volonté de l'impératrice Cixi. Disons que là, effectivement, je vous rejoins dans l'idée que on a nettement l'impression qu'en 1898, en fait, la Chine a raté une marche importante. Mais l'attribuer en fait à une seule personne, je pense que c'est peut-être trop simple pour être vrai. Disons que pour ma part, j'ai essayé ce soir de faire intervenir justement en fait le projet inhérent à la réforme voulue par Kang Youwei, à savoir justement une réforme politique qui irait chercher justement du côté, disons, des ressources intellectuelles et culturelles traditionnelles. Et là, je crois que ça a montré en fait les limites extrêmes de cette utilisation. parce que plus personne ensuite n'a essayé de refaire la même chose. Là, je crois que 1898, c'est sur le plan qui nous intéresse, en fait, essentiellement l'échec de cette dernière tentative culturaliste.
Bonsoir. Vous nous avez éclairé la tradition de la réinterprétation ou réinvention de la tradition intellectuelle chinoise. Je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, dans la tradition d'aujourd'hui en Chine actuellement, y a-t-il d'autres interprétations d'origine, je ne sais pas, des missionnaires ou encore d'autres plus tard de l'Union soviétique, d'autres vents qui viennent en Chine dans la tradition intellectuelle pour relativiser, pour analyser d'un autre point de vue la tradition chinoise.
Oui, là, bien sûr, en fait, vous mettez là en fait le doigt sur effectivement un grand trou noir que j'ai laissé volontairement béant, à savoir justement en fait toute une tradition d'interprétation marxiste qui s'est beaucoup effectivement nourrie du précédent russe puis soviétique. Disons que là, ça m'entraînait en fait dans un vrai propos vraiment trop vaste, qui, je pense, en plus a été déjà traité ici même. Donc, je n'ai pas voulu revenir en fait sur cet aspect-là, mais vous avez quand même raison de le souligner. Pour ce qui est effectivement d'une sorte de retour à une première lecture missionnaire de la tradition chinoise, effectivement, c'est ce qu'on est en train de voir en Chine actuellement, où certains universitaires s'intéressent effectivement aux écrits, notamment en fait des missionnaires jésuites qui étaient présents en Chine donc à partir du 17e, 18e siècle, donc dans la Chine manchoue, dans la Chine des Qing. Reviennent là-dessus parce que il y a eu effectivement en fait dans la façon dont notamment en fait les jésuites ont présenté la culture chinoise au public européen, hein, à un public très demandeur, si on peut dire, le public notamment des Lumières en Europe. Il y a déjà eu en fait effectivement un premier travail de sélection, dans la mesure où le choix qui s'est cantonné presque exclusivement à la littérature canonique confucéenne a été guidé par le souci justement d'exclure tout ce qui pouvait paraître superstitieux, tout ce qui pouvait paraître relevé du domaine des superstitions dans la culture chinoise, et excluant donc du même coup des pans entiers alors de littérature taoïste et même bouddhique. Donc là, effectivement, en ce moment, je crois qu'il y a, un retour historicisant sur ces premiers modes de lecture missionnaires qui ont fourni, malgré tout, en fait, les bases des pratiques sinologiques des écoles sinologiques européennes dans l'histoire.
Est-ce que vous ne croyez pas qu'un des éléments importants du dialogue qui va sans doute se développer entre les intellectuels chinois et occidentaux pendant ce siècle sera lié aux différentes conceptions du temps? Une des choses qui m'a frappée dans votre exposé au début, c'est que vous avez fait allusion à cette conception du temps en parlant du darwinisme social, conception du temps en Occident. Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue-là, du dialogue qui va se développer entre la Chine et l'Occident?
J'ai parlé de la conception du temps. Très honnêtement, je ne vois pas bien en fait à quoi vous faites référence.
L'introduction des œuvres de Spencer, du progrès et du darwinisme.
Ah oui, c'est-à-dire en fait plutôt une réécriture de l'histoire. Alors là, c'est un petit peu un autre problème. Oui, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, disons que mon propos était essentiellement donc historique et non pas prospectif. Hein. Je me garderais bien en fait de jouer les Cassandres pour essayer de vous indiquer en fait les grandes lignes des futurs débats enfin entre. entre les intellectuels de divers mondes, de toute façon dans un monde globalisé, ça n'était pas mon propos de ce soir. Mais excusez-moi, je n'avais pas bien compris votre question parce que ce dont j'ai parlé, c'est essentiellement de ce processus de réécriture de l'histoire plutôt. Donc si votre question porte là-dessus, oui, enfin, je pense que tout retour réflexif et critique sera obligé de prendre cet aspect-là en compte. Que ce soit dans les milieux chinois ou ailleurs. Mais toujours est-il que ce qu'on peut dire de manière très générale... Et ça, je pense que c'était en fait la conclusion à laquelle arrivait Chu Xiaotian hier soir, c'est qu'il y a quand même en fait quelque chose de tout à fait positif dans la pluralisation des débats et des milieux. Je crois que en Chine même, en fait, on est en train d'assister en fait à ce phénomène qui va vers davantage de pluralisme. Et moi aussi, ça me paraît quelque chose de très positif, parce que encore une fois, en fait, nous n'avons plus ce schéma, dichotomisant Chine contre Occident. Enfin, c'est pour ça que j'ai insisté un petit peu sur la médiation japonaise, parce que là déjà, ça casse un petit peu la symétrie. Même si c'est un aspect qu'on a un petit peu occulté pour des raisons historiques assez évidentes, il y a eu tout à l'heure en fait une intervention aussi sur le modèle russe, soviétique, etc. dont je m'en excuse, je n'ai pas parlé du tout. Donc là en fait nous avons effectivement des facteurs de pluralisation du débat qui me paraissent intéressants.
Oui, c'était à propos des jésuites, justement, je voulais dire, puisque vous parlez de ce retour de certains intellectuels chinois sur les travaux des jésuites, est-ce que ça ne serait pas un peu réducteur, parce que leur lecture se faisait essentiellement à travers une interprétation du christianisme par rapport au confucianisme, hein, en particulier Matteo Ricci, qui avait trouvé des correspondances. Et donc, est-ce que ça ne serait pas un peu réducteur de ne faire cette analyse qu'à travers les jésuites ?
Oui, enfin, c'est-à-dire que on peut dire que tout effort d'interprétation est réducteur. Je veux dire, ça, c'est bien ça le problème de tout phénomène culturel, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui peut être fertile, mais tout en étant effectivement tout dépend là aussi. Enfin, comment l'interprétation est interprétée aussi.
Oui, je voudrais faire une petite intervention sur l'identité philosophique ou du philosophe en Chine. Ne pensez-vous pas qu'il y a déjà matière dans la religion qui doit avoir une certaine influence aujourd'hui en Chine? Est-ce que l'on ne peut pas tirer justement de cette religion, que ce soit du bouddhisme ou de l'hindouisme, peut-être un peu moins développé, une identité...
L'hindouisme en Chine, non.
Un petit peu, je pense, du côté de l'Inde. Une identité philosophique, compte tenu que la Chine se dirige vers un système, je dirais... néo-capitalisme, et qui risque
déjà,
d'entraîner pas mal de gens dans le matérialisme.
Alors, je retiens la première partie de votre question, en fait, comment pourrait s'identifier le philosophe en Chine ? Parce que, alors après, ça devient trop vaste pour moi, je n'arrive plus à gérer le reste de la question. Mais alors là, justement, c'était un petit peu ça le problème, c'est que, justement, pourquoi cet intérêt récent pour une figure comme Mao Zedong, c'est parce qu'en fait, il apparaît justement comme pratiquement en fait le seul intellectuel en fait de grande envergure qui puisse se targuer d'être véritablement un philosophe chinois, c'est-à-dire qui a construit un système qu'il a voulu en fait à l'égal du système kantien enfin. Maintenant justement la difficulté est pour par exemple les gens qui accompagnent quelqu'un comme Paul Ricoeur en Chine et qui essayent à toute force de lui trouver des interlocuteurs du côté chinois, mais je veux dire, à ma connaissance, je ne connais pas d'intellectuel chinois qui puisse véritablement dialoguer avec Paul Ricoeur en tant que philosophe. Donc là, c'est une question qui reste en suspens.
Han Cheng, merci beaucoup.